Pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc, texte de la liturgie catholique pour le 8e dimanche. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. On vient lui dire:
« Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?»
Jésus leur dit:
« Les garçons de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Autrement, la pièce ajoutée tire sur lui, le neuf sur le vieux, et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin fera éclater les outres, et le vin est perdu aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves. » Auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Eh bien, voilà un récit qui peut sembler très simple à première vue. Il est pourtant rempli d'ambiguïté. Qui pose la question du jeûne à Jésus? Les disciples de Jean ou les pharisiens? Jésus est-il opposé à toute forme de jeûne? De quel jour est-il question pour le jeûne dont il parle? Que représentent exactement le vêtement et le vin?
Eh bien, citons notre texte. Se trouve dans une série de 5 controverses entre Jésus et ses adversaires, des controverses qui marquent la résistance que ce nouveau rabbi qu'est Jésus rencontre. Controverses à propos du pardon aux paralytiques, d'un repas pris avec des publicains, controverses sur le jeûne, c'est notre texte, et puis, et c'est la semaine prochaine que nous verrons cela, controverses autour de la non-observance du sabbat pour les disciples et par Jésus. L'ensemble va s'achever par l'amorce d'un complot contre Jésus, ce rabbi insolite et gênant. La controverse sur le jeûne est située donc aussitôt après le repas avec les publicains, et c'est ce repas qui devrait donc éclairer la question du jeûne.
Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent-ils pas?
Oui, voilà donc la question essentielle de notre texte. Mais qui pose cette question à Jésus? Le texte de Marc, en effet, n'est pas très précis. « Ils viennent lui dire ». On a d'ailleurs traduit par « on vient lui dire » parce que ce « il », on ne sait pas qui il représente. Est-ce que ce sont les disciples de Jean et les pharisiens qui sont en train de jeûner? Mais alors, on ne voit pas pourquoi ces questionneurs parleraient d'eux à la troisième personne. Ils disent en effet « pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils ? » On devrait plutôt avoir ici « pourquoi jeûnons-nous alors que tes disciples ne jeûnent pas ?» Une autre hypothèse est que le sujet représenté par « il » renvoie à ce groupe qui a posé la question du repas avec les pêcheurs, c'est-à-dire les scribes des pharisiens. On peut aussi, pour s'éclairer, regarder les passages parallèles dans les textes de Matthieu et de Luc. Mais dans Matthieu, ce sont clairement les disciples de Jean qui posent la question.
Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant « pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent pas ?»
Dans Luc, le sujet qui pose la question, eux lui disent, ne peut renvoyer cette fois qu'aux pharisiens et aux scribes. Ce sont ceux qui ont murmuré contre la conduite de Jésus lorsqu'il mange avec les pécheurs.
Mais eux lui disent, les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent.
Donc de ces passages de Matthieu et de Luc, on ne peut vraiment pas conclure grand-chose, sauf peut-être que la question est suscitée d'abord à propos des disciples de Jean. En effet, chaque fois, le groupe des pharisiens semble venir comme en sus.
De quel jeûne parle-t-on? À l'époque de Jésus, quelles étaient les pratiques de jeûne qui avaient cours?
La Torah ne prévoyait qu'un jeûne obligatoire qui était celui du jour des expiations, tel qu'il est décrit dans le livre du Lévitique au chapitre 23.
Le dixième jour de ce septième mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous jeûnerez, vous offrirez un mets au Seigneur Dieu. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des expiations, où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Oui, quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché des siens. Quiconque fera un travail, ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Ce sera pour vous un jour de repos complet. Vous jeûnerez. Le soir du neuvième jour du mois, depuis ce soir jusqu'au soir suivant, vous cesserez le travail.
Eh bien, ce n'est donc pas sans doute de ce jeûne que Jésus parle. Mais il s'agit plutôt des jeûnes de dévotion, qui étaient des jeûnes facultatifs. Alors les groupes religieux, comme les pharisiens, pratiquaient ces jeûnes, et notamment les lundis et jeudis. Certains même y trouvaient un sujet de fierté, une sorte d'assurance pour se prémunir du châtiment de la justice de Dieu. Écoutons les textes de Luc.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. »
Jésus réagira fortement contre cette attitude de se glorifier de son jeûne et, par cela, de vouloir marchander ses mérites devant Dieu.
« Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
Dans la pratique juive, le jeûne est associé à la prière et au partage avec les plus pauvres, comme le montre d'ailleurs toute la section du discours sur la montagne en Matthieu au chapitre 6. Déjà, d'ailleurs, les prophètes avaient rappelé que le jeûne doit être accompagné d'une conversion intérieure.
Oracle du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur, votre Dieu. Car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal.
Associé à la prière, le jeûne nous prépare donc à la rencontre de Dieu. Et c'est pour recevoir les grandes paroles de Dieu que Moïse a jeûné 40 jours sur le mont Sinaï.
Moïse demeura là, avec le Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles.
Et c'est pour recevoir la lumière du Père que Jésus, lui, va au désert pour y jeûner 40 jours. Cette rencontre doit permettre de recevoir la force de Dieu afin de joindre notre volonté à la sienne. Mais cette lumière de Dieu ne peut être donnée à un cœur qui demeure égoïste et sans miséricorde. C'est pourquoi le jeûne doit s'accompagner d'une vraie solidarité sociale. Cela est très bien décrit dans le livre d'Isaïe au chapitre 58.
Parole du Seigneur. C'est moi qu'ils recherchent jour après jour, ils désirent connaître mes voies. Comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Ils s'informent près de moi des lois justes. Ils désirent être proches de Dieu.
Mais, dans ce texte, malgré ce jeûne, la lumière divine ne vient pas pour éclairer le cœur de ces gens qui jeûnent. Et alors ils se demandent s'il peut se faire que Dieu n'ait pas aperçu leur jeûne.
Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le voies? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches?
Et alors la réponse que Dieu leur fait, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rencontre de Dieu s'il n'y a pas justice envers son prochain.
C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous opprimez tous vos ouvriers. Vous jeûnez tout en cherchant querelles et disputes et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient. En un jour, vous voulez faire entendre là-haut votre voix. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. Il est un autre motif pour jeûner, la séparation d'être cher par la mort.
En effet, le jeûne va accompagner les manifestations de deuil, comme le raconte le livre de Samuel à propos de la mort du roi Saül.
Ils célébrèrent le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir pour Saül, pour son fils Jonathan, pour le peuple du Seigneur et pour la maison d'Israël, qui était tombée par l'épée.
D'ailleurs, dans la langue araméenne, le même mot « ana » signifie à la fois jeûner et mener le deuil. Et c'est peut-être une trace de cela que l'on trouve dans la réponse de Jésus dans la version de Matthieu.
Jésus leur dit, « Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ?»
D'ailleurs, pour certains spécialistes des évangiles, ce serait ce lien entre le deuil et le jeûne qui expliquerait dans notre texte la présence des disciples de Jean. Ceux-ci, en effet, seraient dans une sorte de jeûne permanent puisque Jean, leur maître, est en prison. C'est en fonction de cette situation que s'expliquerait le mieux la réponse de Jésus « Les garçons de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?»
Comment comprendre cette réponse qui fait allusion aux noces de l'époux ?
Eh bien, dans la Bible, l'époux désigne Dieu. Nous pouvons citer quelques passages des prophètes. L'attitude de Dieu envers son peuple qui s'est égaré dans l'adoration des idoles, les idoles qui sont appelées les Baals, eh bien cette attitude de Dieu est comparée par le prophète Osée à celle d'un homme qui accueille son épouse après qu'elle se soit prostituée.
C'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au temps de sa jeunesse. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on n'en mentionnera même plus leurs noms. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité.
Isaïe va reprendre ce même thème de l'épouse, une épouse qui s'est éloignée et qui revient vers son époux.
Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Le Seigneur, le Tout-Puissant, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car telle une femme abandonnée et dont l'esprit est accablé, le Seigneur t'a rappelé. La femme des jeunes années, vraiment serait-elle rejetée, a dit ton Dieu. Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage un instant loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur.
On notera la manière dont les prophètes décrivent ce Dieu époux. Il pardonne à son peuple avec un amour plein de tendresse et il laisse éclater sa joie de ses retrouvailles.
Comme le jeune homme épouse sa fiancée, ton bâtisseur t'épousera. Et de l'enthousiasme du fiancier pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi.
N'est-ce pas ce même esprit qu'on retrouve dans la réponse de Jésus concernant le jeûne ? Si les disciples de Jean-Baptiste peuvent jeûner parce que leur maître leur a été enlevé, les disciples de Jésus, eux, sont dans la joie puisque leur maître est au milieu d'eux, ce maître qui est le représentant du Dieu époux. Dans le récit de l'évangéliste Jean, c'est d'ailleurs le Baptiste lui-même qui désigne Jésus comme l'époux.
Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il l'écoute et la voix de l'époux le comble de joie.
Plus tard, dans les lettres de Paul, l'apôtre va reprendre cette image. Ainsi, dans l'épître aux Éphésiens, il compare le mariage humain et l'Église. Et les membres de l'Église de Corinthe, qui sont très chers au cœur de l'apôtre, sont dits fiancés au Christ Jésus.
Je vous ai fiancés à un époux unique, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure.
Par sa pratique, Jésus manifeste donc la tendresse de Dieu et sa volonté de renouer l'alliance malgré le péché. Ainsi, lorsque Jésus fréquente les pécheurs et lorsqu'il mange avec eux, eh bien, il illustre cet amour du Dieu époux. En effet, Le repas est un symbole très fort dans la Bible pour décrire justement les liens entre Dieu et ses fidèles. On retrouve cela dans plusieurs paraboles des évangiles, celle des 10 vierges, celle du festin des noces, dans le récit de Matthieu au chapitre 25 et au chapitre 22. Le repas, dans la Bible, est un geste sacré qui manifeste la communion entre les convives et leur communion avec Dieu. Alors, lorsque Jésus mange avec des publicains, il pose un geste qui est scandaleux aux yeux des pharisiens. En effet, les publicains sont des pécheurs, ils sont des employés de la puissance romaine qui occupe la terre d'Israël, et ils sont de plus considérés comme des gens peu honnêtes qui volent les contribuables. Ailleurs, dans le récit de Luc, nous voyons Jésus aller loger chez un publicain Zachée. Comment comprendre ce scandale? Eh bien, tentons de transposer la situation dans des conditions un peu plus actuelles. Qu'est-ce que l'on aurait dit, par exemple, dans la France de la Deuxième Guerre mondiale, d'un évêque qui aurait volontiers soupé avec des Français qui auraient été collaborateurs des Allemands, des gens qui auraient collaboré, par exemple, aux arrestations des Juifs et à leur envoi dans les camps de concentration? Eh bien, on le voit, c'est toute l'attitude de Jésus envers les pécheurs qui scandalise. En effet, il ne condamne pas la femme adultère.
Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Il se laisse toucher par cette femme pécheresse dans le récit de Luc.
Tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés.
Jésus va illustrer sa conduite avec des paraboles qui montrent que cette attitude, eh bien, c'est celle même de Dieu. Ainsi, dans le récit de Luc, le Père, qui représente Dieu, accueille avec une joie exubérante son Fils prodigue. Non seulement il ne lui fait pas de reproches, mais il déborde de tendresse envers ce Fils ingrat et débauché. Et cela, bien sûr, au grand scandale de son Fils aîné, qui ne comprend pas que son Père ne châtie pas son frère. La moindre justice, pour lui, voudrait qu'on punisse celui qui a fait mal, non seulement pour lui faire prendre conscience de son mal, mais aussi pour dissuader ceux qui voudraient l'imiter. Eh bien, pour convertir le cœur du pécheur à l'amour, Jésus, lui, mise davantage sur la tendresse que sur le blâme. À Pierre qui va le renier, Jésus lave les pieds en signe de sa communion fidèle. À Judas qui va le trahir, il partage son pain. Car Jésus sait que celui qui fait mal se fait d'abord mal à lui-même, et qu'il a donc surtout besoin d'être soutenu dans son désir de mieux faire. Jésus fait appel à la petite flamme de désir de bonté qui réside dans le cœur le plus mauvais. Il veut réveiller l'espérance en manifestant à celui qui a fait mal qu'il est encore et toujours digne de confiance parce qu'il est profondément meilleur que ses actions ne le laissent voir. Ce qui est triste aux yeux de Jésus, ce n'est pas d'avoir fauté, mais c'est de refuser de voir et de reconnaître sa faiblesse.
Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure.
En un cœur qui se croit correct, l'amour en effet ne peut plus pénétrer pour le convertir à plus d'amour. Charles Péguy a bien décrit cela.
On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse. Et on a vu sauver ce qui était perdu. Mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable. On n'a pas vu tremper ce qui était habitué. De là vient que la grâce, remportant des victoires inespérées dans l'âme des plus grands pécheurs, reste souvent inopérante auprès des plus honnêtes gens, du moins ceux qui aiment à se nommer tels. Leur peau de morale constamment intacte leur fait une cuirasse sans faute. Il ne présente point cette ouverture que fait une inoubliable détresse, une mortelle inquiétude, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. il ne présente point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point ce qui n'a pas de plaie. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des autres vieilles.
Alors comment comprendre ces images et quel lien y a-t-il avec ce qui précède? Essayons d'abord de préciser quel motif Jésus invoque pour justifier que ses disciples ne jeûnent pas. Est-ce simplement parce que lui, Jésus, époux, est présent? Cela pourrait être la raison si l'on se fie aux versets qui suivent.
Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront en ce jour-là.
Mais les spécialistes disent que ces versets semblent interrompre le récit, ce récit qui va se poursuivre par les images du vin nouveau et du vêtement. Et alors, on pense que ce verset a pu être ajouté pour justifier que les premiers chrétiens avaient repris l'usage du jeûne, ce qu'ils faisaient notamment le vendredi pour commémorer la mort du Seigneur Jésus le jour où l'époux leur a été enlevé. Comment le rapprochement qui est fait avec les images du vêtement et du vin nouveau éclaire-t-il la réponse de Jésus sur le jeûne? Ne serait-ce pas que Jésus invite à trouver une nouvelle pratique face au péché? Est-ce qu'il ne nous dirait pas que le jeûne n'est peut-être pas la première attitude à avoir face au mal qui est dans notre cœur de pécheur? En effet, les disciples de Jean comme les pharisiens, est-ce qu'ils n'ont pas une même attitude face au pécheur qui est celle de le condamner, de l'inviter à s'humilier devant Dieu et à se mortifier pour acquérir le pardon divin? Le discours de Jean le Baptiste faisait en effet une bonne place à la crainte de Dieu.
Qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisons donc un fruit digne du repentir. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Plutôt qu'aux blâmes et aux privations qu'on s'inflige pour se purifier devant Dieu, Jésus semble donner priorité au pardon et à la fête qui l'accompagne. Pour lui, le péché ne peut être effacé par le remords et les mortifications. Ce qui importe pour prendre conscience de notre péché, c'est de reprendre confiance en l'amour. Faire l'expérience de l'amour de Dieu, c'est cela qui donne la vraie conscience du péché. Le péché n'est pas péché parce qu'il est infraction à la loi. Il est péché d'abord et avant tout parce qu'il détériore notre capacité d'aimer. Et le pécheur a donc bien plus besoin d'amour que de punition. Si l'amour donné au pécheur ouvre de nouveau son cœur à l'amour, alors cela conduit à la joie qui est celle de Dieu et celle du pécheur pardonné.
C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir.
N'est-ce pas là un esprit nouveau pour comprendre notre lien avec Dieu? N'est-ce pas une vision neuve de Dieu? La priorité n'est pas donnée au Dieu juste qui punit, mais au Dieu qui est passionné d'amour et de communion. Maurice Zendel a passé sa vie à convaincre de cette nouveauté apportée par Jésus.
La royauté de Dieu, c'est de nous toucher par sa liberté, pour ne susciter de nous que notre amour, de nous toucher par sa liberté pour susciter la nôtre. C'est cela, notre Dieu. Non pas une limite, non pas une menace, non pas un interdit, non pas une vengeance, mais l'amour agenouillé qui attend éternellement le consentement de notre amour. On imagine les croyants comme de pauvres types qui ont peur, qui s'en remettent à une puissance indiscutable pour boucher les trous de leur impuissance. L'Évangile nous fait connaître le cœur de notre Dieu et nous introduit dans son amitié. Car désormais, il n'y a plus de serviteurs, mais des amis. C'est une révolution sans précédent. Dieu attend notre amour de fils, il attend notre confiance d'amis. L'Évangile nous fait entrer dans l'intimité de Dieu vivant qui fait surabonder la vie.
Oui, l'attitude de Jésus face aux pécheurs vient d'une vision de Dieu qui doit transformer notre façon de vivre. réparer un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe qui n'a jamais été lavé expose à des catastrophes lors du nettoyage, car la pièce lavée pour la première fois va rétrécir et elle va tirer sur le vêtement jusqu'à le déchirer. Mettre du vin nouveau dans des outres vieillies provoque aussi la déchirure, le vin va fermenter et prendre de l'expansion en faisant éclater les outres. L'évangile de Jésus suppose une transformation profonde de notre regard sur Dieu, une conversion intérieure du vin nouveau dans des outres neuves. Oui, depuis Jésus, on ne peut plus vouloir jeûner pour mériter le pardon d'un Dieu de justice. Le pardon de Dieu est donné, il est donné en surabondance au cœur qui se laisse aimer, au cœur qui se laisse enthousiasmer par cet amour, qui se laisse transformer par la joie de Dieu. Quel est le drame du fils aîné qui se scandalise de son père qu'il considère injuste? Eh bien, c'est qu'il passe à côté de la joie, de la vraie joie, parce que son besoin de justice ferme son cœur, qui ne peut plus se réjouir du retour d'un frère qui est vivant. Le Dieu de Jésus est démesuré dans l'amour. Seul celui qui se laisse vaincre par cette démesure d'amour peut participer à la joie de Dieu.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Téléphonez-nous, nous vous donnerons également l'adresse de notre site sur Internet et les tarifs pour s'abonner 3 mois, 6 mois, 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.